Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans le studio Jean Orsi de Radio Nîmes 92.2 sur les ondes et radionimes.fr sur internet, mais toujours Radio Nîmes avec l'accent, pour une nouvelle émission d'Envie de Nîmes, le rendez-vous mensuel autour du patrimoine nîmois. Alors le patrimoine évidemment historique, patrimoine historique, patrimoine social, mais surtout patrimoine humain. L'émission est présentée par Salem Marché et Bernard Mouret et fait l'objet d'un podcast sur internet et fait l'objet également d'une rediffusion tous les troisièmes mercredis du mois. La placette, c'est une place sans nom, mais c'est aussi un quartier dont on essaiera peut-être de définir les limites. Et c'est surtout donc un quartier qui est un petit peu, bon, je dirais pas en danger, mais comme il est donc en dehors en fait de l'écusson, vous savez qu'ils sont soumis toujours aux aventures immobilières. Alors on espère que ce quartier sera toujours éternellement préservé, ou en tout cas qu'il ne changera guère. Je vais demander d'abord à Salem Marchi de dire deux mots, et ensuite Francine Cabane se présentera.
Bon, bonjour chers amis, chers auditeurs de Radio Nîmes. Donc c'est un immense plaisir que de recevoir notre amie Francine Cabane que nous allons féliciter pour son élection à la présidence de l'Académie de Nîmes. Je pense que cette belle maison historique sera très très bien tenue et il y aura beaucoup beaucoup de choses qui se feront sous la présidence de Francine Cabane. Et puis nous sommes très heureux qu'elle nous consacre toujours du temps parce que c'est une invitée régulière, on va dire presque, c'est une auxiliaire de Radio Nîmes et nous sommes toujours très heureux de la recevoir. Bien sûr, alors le thème de la placette, alors bon, mon cher Bernard, il ne faut pas désespérer de la placette. La placette est un mythe, est un véritable mythe nîmois qui est, soit si on la regarde du côté populaire, c'est la placette, c'est un lieu de castagne, c'est un lieu particulier, c'est un lieu chaud comme on dirait aujourd'hui, et puis il y a le côté bobo, le flamenco, la musique, les gitans, les lieux de rêve, etc. Et donc il y en a pour tout le monde, et je crois que personne n'aura jamais l'idée de faire disparaître cette placette qui d'abord de toute façon sur le plan local il y a des rues, il y en a 8 rues je crois qui rentrent et qui sortent, qui sont des rues importantes qui sont à la fois qui donnent sur le centre-ville et sur le Jean Jaurès, et c'est un lieu qui va à mon avis qui va s'améliorer sur le plan architectural, certainement qu'il y aura des aménagements. Mais c'est une place qui, dans le cœur de Nîmois, est très très importante.
Merci beaucoup, Salem, de ces mots gentils d'accueil, et dire aussi, pour ma part, tout le plaisir que j'ai à me retrouver à Radio Nîmes, parce que c'est vraiment une radio où il y a une ambiance particulière, en tout cas de grande convivialité. Et je suis ravie aussi de venir effectivement parler de la placette, parce que c'est un quartier de Nîmes que j'aime particulièrement, que j'ai appris à connaître. Je ne suis pas nîmoise d'origine et j'ai découvert la ville petit à petit. Et ce quartier m'a semblé être un quartier qui vraiment avait une âme. Et je partage ton optimisme, hein, coincé entre l'Écusson et le Jean Jaurès. Il est quand même appelé à témoigner de ce qu'a été la Nîmes populaire, la Nîmes ouvrière aussi. On aura peut-être l'occasion de parler du passé ouvrier de ce quartier. Et je pense qu'il a peut-être un bel avenir devant lui, je l'espère en tout cas, comme toi.
Ou un lieu où il y a aussi le rendez-vous avec la fête. Je crois que quand on arrive la feria, cette période-là de musicale, une période de chaleur, il y a toujours un moment où la placette, c'est un lieu de musique, de chant. Et d'ailleurs, il y a même un théâtre, ça m'étonnerait que cette placette soit inquiétée.
Les oreilles attentives, question musicale, auront reconnu en intro le galop de Camargue de Manitas et Plata. Et maintenant, nous faisons une première pause musicale.
Radio Nîmes, c'est le trait d'union entre générations.
Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. qui arrive bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive, les comédiens ont installé leur créteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive si vous voulez voir confondu les coquins dans une histoire un peu triste où tout s'arrange à la fin. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste pour rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installer. Sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les trois coups retentiront dans la nuit, ils vont renaître à la vie, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive, les comédiens ont démonté leur tréteau, ils ont monté leur estrade et plié les calicots. Ils laisseront au fond des cœurs de chacun un peu de la sérénade et du bonheur d'Arlequin. Demain matin, quand le soleil va se lever, ils seront loin et nous croirons avoir rêvé. Mais pour l'instant, ils traversent dans la nuit d'autres villages endormis, les comédiens. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens. Qui arrivent, viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens. Qui arrivent, viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens. Qui arrivent, viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens.
Tour dans le studio Jean Orsi, on va faire un petit tour de la placette avec Francine Cabanne.
Alors oui, en parlant de délimitation, c'est, je dirais qu'il y a deux niveaux. Hein. Il y a effectivement la placette même, qui est, comme vous l'avez rappelé, la seule place de Nîmes qui n'a pas de nom. Elle a ce diminutif, on ne l'a jamais baptisé, c'est la petite place. Et donc, au cœur de l'identité nîmoise, et effectivement alimentée par 8 rues hein, qui arrivent de tous les quartiers. Et c'est donc un centre absolument névralgique. Peut-être je pourrais vous lire un texte qui montre combien la placette est une espèce de nœud. Mais il y a aussi une définition plus large, le quartier de la Placette. Le quartier de la Placette correspond à un comité de quartier qui est un des plus dynamiques de la ville. Peut-être nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure, parce qu'ils organisent énormément d'activités culturelles et festives importantes. Et là, le quartier de la Placette est délimité par le boulevard Victor Hugo à l'est, la rue Grétry au nord, les allées Jean Jaurès à l'ouest et au sud, la rue du Mail. Et cette rue du Mail, d'ailleurs, renvoie à l'histoire du quartier, puisqu'il y avait là un jeu de mailles qui a été créé dans les années 1630 et qui va durer pratiquement pendant 200 ans, où on jouait aux mailles, qui était une sorte de jeu de criquet, en quelque sorte. On avait des battes de bois et il fallait faire passer une boule sous des arceaux. Donc c'était un lieu important déjà de festivité dans la ville à cette époque-là. Alors je revenais sur l'idée d'un carrefour. Hein. La placette c'est un nœud, c'est un carrefour. Et il y a un très joli texte, si on a un petit peu de temps, j'aimerais vous le lire, qui est un texte de Georges Gros. Alors beaucoup de Nîmois connaissent Georges Gros, qui était un occitaniste reconnu, qui a rassemblé les contes de la placette, qui parlait très très bien occitan. Et qui dit dans son livre où il dit « La placette nombril du monde », cette idée du nombril est intéressante, il dit « C'est vrai qu'il est là le nœud de vie, lié par les eaux souterraines de la source. Chaque maisonnette basse garde encore souvent son puits, où gîte la roumèque velue, gardienne des secrets profonds. C'est vrai encore que par les 8 rues, 8 vents soufflent sur la placette, et leurs noms chantent l'ampleur du monde, cisalpin du maître, magistral, mistral. Ainsi donc, les contes qui y naissent protègent-ils l'enfance et la vieillesse par la tendresse de ce diminutif « être » si cher aux Nîmois. Placette des bancs, des seuils, des fenêtres basses où on peut s'accouder pour causer avec celui qui passe. Placette des petits cafés, des boutiques familières aux visages connus. Mais aussi carrefour des passagers du vent. Nanette Frigoule, trafiquant de parfums de garrigue. Simbad, le marin de Val-de-Gour qui rêve de la mer. Louis, le vieux cycliste de la foire de la Saint-Michel. Ou Nen, la petite gitane, héritière des grands voyageurs. Sans compter la bande de gandards remuants et batailleurs qui illustrent l'épopée placétienne. Placette de la jeunesse musicienne où l'on danse au feria, toutes les couleurs et tous les temps mêlés.
C'est un très joli texte hein, qui résume bien l'ambiance de la placette.
Oui, et je trouve.
Et je crois qu'en plus, ce qu'il faut retenir, moi je découvre Georges Gros à travers bien sûr la placette Nombril du Monde, également les contes de la placette, et il a un côté Alphonse Daudet. C'est-à-dire que je dirais ce serait l'Alphonse Daudet de Nîmes et de la placette. Et je crois que, puisqu'on parlait de peut-être qu'elle était menacée, cette placette, mais elle est restée dans la mémoire à travers la littérature. Et d'ailleurs, je viens de passer devant la plaque commémorative à la mémoire de Georges Gros. Elle est vraiment dans la placette à côté du Petit Théâtre. Donc je crois que la ville, elle est attachée à la mémoire de à la fois de la placette et puis de ceux qui l'ont animée. Et je crois que Georges Gros, c'est le, on va dire, ce serait l'Homère, pour j'emploie un grand mot exprès, l'Homère de la placette, parce que il y a des personnages, il y a toute une mythologie. Tu as dans ces récits des choses absolument magnifiques, de quoi faire rêver vraiment, vraiment.
Alors, il y a un autre écrivain important aussi qui a vécu à la placette, c'est Antoine Bigot. Hein, ce cher Antoine Bigot qui...
Il lui rend hommage d'ailleurs dans ce, le livre là de Nombril du Monde. Pardon Francine d'être aussi gourmande. Il y a un livre qui est un hommage. Ben oui, c'est Antoine Bigot. Il y a Jean Journeau.
Oui.
Ouais, ben je t'en prie, je t'ai coupé la parole, mais je, avec plaisir.
Non, mais tout simplement pour rappeler qu'Antoine Bigot a vécu dans le quartier de la Placette, il était diacre, il était protestant hein, et républicain, et il écrivait en occitan. Et il a été reconnu quand même, y compris par les gens du Félibrige. Frédéric Mistral aurait aimé que Bigot fasse partie du Félibrige. Bigot n'a jamais voulu, parce qu'il était attaché à une langue qui était particulière et qui, disait-il, était le vrai parler nîmois, le patois nîmois. Hein, c'est lui qui utilise ce mot. Il dit « Je n'ai pas la prétention d'écrire une langue, mais un patois, le patois de ma ville natale, l'idiome de nos travailleurs avec sa rudesse et son harmonie. J'ai essayé de noter ce bruit qui s'éteint, ce bruit que j'ai entendu autour de mon berceau, qui a séché mes premiers pleurs et provoqué mon premier sourire. » Et je trouve que parler d'une langue comme d'un bruit qui vous provoque un sourire, c'est quelque chose de très fort et de très beau. Et en tout cas, Bigot a une plaque qui se trouve à l'arrière du Temple de l'Oratoire, qui rappelle qu'il a été donc le diacre du Temple de l'Oratoire, qu'il a vécu dans ce quartier et qu'il a écrit une partie de ses contes, le fameux la Zézette de la Placette, que tous les Nîmois connaissent. Alors je ne le dirai pas en occitan parce que je n'ai pas l'accent, je ne suis pas d'ici, mais il dit « C'est ainsi qu'on parlait de Zézette. Son père était un pingre, radin, c'est sûr, et en plus on pouvait l'entendre pleurer alors qu'il avait des biens au soleil, de l'argent caché, sa maison à la Placette et un âne avec une charrette bleue. » Il raconte l'histoire de cette Zézette de la Placette, qui est une histoire très drôle et en même temps très moralisatrice.
Oui, il y a une petite solidarité à la fois, une solidarité, mais c'est sans discrimination, à la fois protestante, et surtout, ils étaient du côté des pauvres. Ce sont des gens qui étaient du peuple. Contrairement à Jean Reboul, c'était pas l'Action française, c'était pas des aristocrates, c'était des gens du peuple, et ils le revendiquaient. Ils avaient toujours peur de se faire repérer au motif de leur culture, de leur intelligence, etc. Et je pense qu'ils ont été très, très, très vigilants pour éviter toute récupération. Je crois.
Alors, bon, la Placette a la réputation d'être un quartier à majorité protestante et un quartier républicain surtout, où vraiment la fibre républicaine a été, la fibre sociale a été très très forte. Et c'est la raison pour laquelle il s'opposait à un autre quartier populaire qui était le quartier de l'Enclorée, qui était un quartier catholique, d'ouvriers catholiques au nord du boulevard Gambetta. Les ouvriers de la Placette travaillaient dans toutes ces usines de ce quartier de la Placette, où il y en avait énormément, et les ouvriers du quartier de l'Enclorée travaillaient plutôt sur les usines qui étaient les fabriques textiles ou de chaussures qui étaient au Nord Gambetta, sur le quartier Nord Gambetta ou au Faubourg des Carmes. Et on sait que les deux jeunesses, la jeunesse royaliste catholique, venait de temps en temps régler ses comptes à la Placette et vice-versa. Donc on a des épisodes assez savoureux et impressionnants de ces bagarres de jeunesse entre les républicains de la Placette et les royalistes de l'Enclorée.
Et voilà. Ça, c'était fait bon, dans quelles années? Dans les années 1850, en fait, dans ces
oui,
jours-là,
oui,
à peu
oui,
près,
ça, a été, ça a été à, oui, dans, au 19e
au
siècle.
Début hein, d'industriel.
Et puis, il y a eu des moments très très forts lors de la naissance de la République. En 1870, la Placette avait organisé une immense fête. Alors, c'était incroyable, l'ambiance.
Ah, ça, je ne savais pas. Ici.
J'ai pas le temps de vous lire, peut-être.
Ah, si, au contraire.
Si, prenez le temps, on a le temps.
Alors, est-ce que je vais retrouver mon texte?
Le 5 septembre,
écoutez,
Gambetta déclare la République.
Ça, je trouve, le 4 septembre,
pardon.
1872, les républicains voulurent fêter à leur manière le second anniversaire de la proclamation de la Troisième République. Une foule compacte de près de 5000 personnes se répandit sur la Placette et dans les rues adjacentes. Et tout ce monde avait arboré des cocardes, des cravates, des ceintures rouges. Et pour mieux marquer le sens de cette manifestation, des bustes de la République, coiffés de bonnets phrygiens, avaient été placés aux fenêtres. Des farandoles s'organisent pendant que des banquets réunissent un grand nombre de convives au milieu de chants révolutionnaires. Le maire royaliste de l'époque, Adolphe Blanchard, ayant fait afficher un arrêté interdisant toute manifestation ce jour-là, le préfet envoya sur les lieux un détachement de gendarmes à cheval et un fort peloton d'infanterie qui vint prêter main forte à la police. Et selon les chroniqueurs de l'époque, les forces de l'ordre furent accueillies avec des cris de joie au premier contact, mais les choses se dégradèrent rapidement lorsque les manifestants réalisèrent qu'elles étaient chargées de disperser la manifestation. Voilà. Donc à la Placette, on chantait la République en 1872. Et les habitants de la Placette, ça va faire le lien avec ce que je voulais vous dire sur les rues, les habitants de la Placette ont exigé à la fin du 19e siècle qu'on change les noms des rues de ce quartier. En 1824, la mairie, on est dans la période de la Restauration, elle avait décidé de remettre en honneur les rois. Donc il y avait la rue Capet, il y avait
la rue Henri IV.
Voilà, il y avait des noms, la rue Saint-Laurent, Saint-Philippe, Saint-Louis.
Saint-Mathieu,
énormément. Et les républicains du quartier se sont battus pour faire enlever ces noms de rois. Il reste la rue Capet et la rue Nantilde. Nantilde était la femme de Capet. C'est les deux seules allusions à la monarchie. Puis il reste Saint-Mathieu, Saint-Laurent. Il reste deux, trois saints. Mais tous les autres, on y a mis la rue Fernand Peloutier, la rue Benoît Malon, c'est-à-dire des socialistes ou des républicains ou des gens très... Émile Zola, enfin, les grands
sûr,
noms qui incarnaient la gauche. Et cette bataille sur les noms de rue est assez intéressante.
Et il y a la rue, alors il y a une rue, j'aimerais bien que Francine me l'explique. Il y a la rue Bec de Lièvre. Alors quand on dit Bec, ça ne veut rien dire. En fait, c'était un évêque, c'est Monseigneur Bec de Lièvre, et je ne sais pas pourquoi la mairie n'a pas mis le nom complet. Normalement, on aurait dû mettre le... Parce que quand on dit rue Bec de Lièvre, on pense à un lièvre, un Bec de Lièvre, à quelque chose de... à une anomalie. Et en fait, c'est un évêque.
Tout à fait. Tout à fait. Mais effectivement, on n'a pas mis Monseigneur l'évêque Bec de Lièvre. C'est la rue Bec de Lièvre.
C'est ça, oui. Donc,
c'est resté
petite rue d'ailleurs, très petite. Enfin, non, pas là.
Très étroite.
Étroite, voilà.
Toutes les rues racontent l'histoire du quartier. Parce que vous avez la rue du Cirque Romain, par exemple, qui est dans le quartier de la Placette, en bordure de Pablo Neruda. Mmh. Et cette rue du Cirque Romain, c'est parce qu'au moment où, à un moment donné, on a cru qu'il y avait là un cirque romain. On trouvait des tours, des emplacements de tours, et puis les fouilles ont montré que ces tours étaient les tours du rempart, et pas du tout celles d'un cirque. Si cirque romain il y a eu, d'après les archéologues, il n'était pas très loin de l'amphithéâtre, mais pas à cet endroit-là. Et en tout cas, les tours qu'on a trouvées, c'est sûr, ce sont les tours du rempart romain. Mais voilà, on l'avait appelée la rue du cirque romain, on a gardé cette appellation. On a la rue du Mail, qui rappelle ce jeu de mail dont je parlais tout à l'heure, et puis on a plein de noms de rues qui rappellent la fonction hospitalière.
Oui, rue de la Pitié.
Alors, vous avez la rue de la Pitié, la rue de la Bienfaisance, la rue de l'Hôtel Dieu qui menait à l'Hôtel Dieu.
Exactement.
Tout le grand quartier hospitalier de Nîmes se trouvait au bout de ce quartier de la Placette. Et il était de ce fait traversé par énormément de pèlerins qui venaient à Nîmes, parce que Nîmes était sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, Nîmes était sur le grand chemin de pèlerinage de Saint-Gilles, quatrième plus grand pèlerinage de la chrétienté, Saint-Gilles, on oublie toujours. Et de ce fait, donc des milliers de gens venaient à Nîmes et rentraient ceux qui arrivaient, disons, de cette direction de l'ouest de la ville, rentraient par ce quartier de la Placette, traversaient le quartier de la Placette et allaient d'abord dans ce qu'on appelait les hospices, qui étaient hors rempart, et souvent ces personnes qui arrivaient fatiguées, parfois malades, etc., étaient d'abord accueillies à l'Hôtel Dieu ou dans les hospices très nombreux qui se trouvaient dans ce quartier. D'où ces noms de rue de la Bienfaisance, rue de la Pitié.
D'accord, une des, bon, des anciennes entrées bon, de Nîmes, c'était la rue Jean Reboul, non bon, la rue de
oui. Porte de France aussi.
Alors la rue Jean Reboul, oui, c'est la rue.
Qui s'appelait la rue de la Caminerie ou de.
De la Carretterie.
De la Carretterie.
Parce qu'il y avait une succession de charrettes.
Ouais. Et qui était bon, l'entrée en fait de la ville.
Oui, ça venait du chemin de Montpellier. Hein, la route de Montpellier aboutissait. Donc les gens qui arrivaient du sud, ils rentraient dans Nîmes par la rue Jean Reboul, qui a été une des rues les plus importantes de la ville au Moyen-Âge. Et oubliée aujourd'hui. Elle était ponctuée, cette rue Jean Reboul, de l'hôtel Dieu, de la Providence, de l'hôpital protestant se trouvait là aussi, puis il avait été détruit au moment de la révocation de l'édit de Nantes, bien sûr, et on avait tous les logis et les auberges, hein, tenus souvent par des protestants, à tel point qu'on appelait ce quartier la petite Genève. Tout le quartier de la rue Jean Reboul, c'était la petite Genève, parce qu'il y avait là des auberges tenues par des protestants.
Et derrière la rue Bigot, c'était la rue de l'Égorgeoir.
Oui.
Et alors c'est étonnant qu'il y ait...
Oui, il y a encore la rue de l'Abattoir dans le quartier.
Oui.
Tout simplement parce que l'égorgeoir des ports, en tout cas, se trouvait effectivement à l'emplacement de l'école protestante de l'Oratoire et devant se trouvait le marché aux bestiaux, le premier marché aux bestiaux. Mais on aura l'occasion, je pense, de parler du marché aux bestiaux après.
Je vous propose une deuxième pause musicale.
Il y a tout au long des marchés de Provence qui sentent le matin, la mer et le midi, des parfums de fenouil, melons et céleri, avec dans leur milieu quelques gosses qui dansent. Voyageurs de la nuit, moi, qui en ribambelle ai franchi des pays que je ne voyais pas. J'ai hâte, au point du jour, de trouver sur mes pas ce monde émerveillé qui rit et s'interpelle le matin au marché. Voici pour 100 francs du thym, de la garrigue, un peu de safran et un kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un beau plateau de pêche ou bien d'abricot. Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte, voulez-vous pas vrai? Un bouquet de lavande ou bien quelques œillets. Et par-dessus tout ça, on vous donne en étrenne l'accent qui se promène et qui n'en finit pas. Mais il y a tout au long des marchés de Provence tant de filles jolies, tant de filles jolies. Au milieu des fenouilles, melons et céleri, j'ai bien de temps en temps quelques idées qui dansent. Voyageurs de la nuit, moi qui en ribambelle ai croisé des regards que je ne voyais pas. J'ai hâte au point du jour de trouver sur mes pas ces filles du soleil qui rient et qui m'appellent le matin. Voici pour 100 francs du thym de la garrigue, un peu de safran et un kilo de figues. Voulez-vous pas vrai un bon plateau de pêche ou bien d'abricot? Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte. Voulez-vous pas vrai un bouquet de lavande ou bien quelques œillets? Et par-dessus tout ça, on vous donne en étrenne l'accent qui se promène et qui n'en finit pas. À la belle Poutine, à la belle Poutine, baby, 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 baby.
De retour dans le studio Jean Orsi de Radio Nîmes avec l'accent pour évoquer la placette. Et alors, suite à cette chanson de Gilbert Bécaud, Les marchés de Provence, eh ben on va peut-être évoquer les marchés de la placette, autour de la placette. Oui.
Alors effectivement, les marchés et le commerce, ça a joué vraiment un très très grand rôle à la placette. La placette est près des allées Jean Jaurès. Or, très tôt, au début du XXe siècle, enfin, s'est installée de manière définitive à la fois la foire, les foires de Nîmes, c'est-à-dire la foire d'automne et la foire de printemps, avec tous les manèges, etc., et aussi, bien évidemment, tout ce qu'on vendait sur la foire. Et donc, ces foires attiraient la population venue de tout le département. On venait acheter son ail, ses aules, pardon, ou bien les balais, ou toutes sortes de marchandises, des tissus, bien évidemment, aussi, on vendait beaucoup de vêtements. Et ces marchés étaient un moment très, très fort pour tous les gens de la placette, parce que, et surtout pour les enfants, qui a trouvé une animation extraordinaire, ça mettait de la vie, ça faisait fonctionner les boutiques, les petits restaurants, etc. Et il faut savoir qu'autour de la placette, il n'y a pas beaucoup d'endroits à Nîmes comme ça, il y avait des magasins les uns à côté des autres. Il y avait un coiffeur, il y avait quatre cafés, ce qui était les cafés de la placette, c'était pas tout à fait aux quatre coins, mais quatre cafés emblématiques qui ont chacun une histoire, je ne sais pas si on a le temps de la raconter, mais...
Oui, bien
très,
sûr, si.
Très intéressante. Et je vais peut-être en dire deux mots, puisqu'on est, on est
allez,
sur
les cafés.
Les cafés et les marchés. Donc, on avait le café de l'Harmonie, qui va devenir ensuite la Movida, le café de l'Union, qui deviendra le Rugby Bar. On en reparlera à propos des Gitans, ça va devenir un grand café gitan. Le Nouveau Bar et le Claridge. Alors, parmi eux, l'Harmonie est devenu un lieu assez emblématique, qui était la Movida dans les années 80, parce que s'y trouvait à l'étage la Fédération gardoise Léo Lagrange, que France Pierre Mauroy était venu inaugurer en personne, et au rez-de-chaussée un bar musical, la Movida, où il y avait un piano à queue, des concerts, du jazz. Michel Petrucciani, Guy Laborie sont venus jouer. Il y avait vraiment beaucoup de monde, une ambiance de folie. On buvait la tequila frappée ou le champagne sur la place, et puis les vedettes et les gens un peu à la mode venaient au moment des férias s'encanailler à la Movida. Donc il y a eu sur cette place où il y avait coiffeurs, où il y avait le bon lait, où il y avait des épiceries, des boulangeries, une boucherie emblématique sur l'angle de la placette, vraiment une animation de marché, de convivialité permanente. Puis le jeu de boules, bien évidemment, au milieu, qui rassemblait les personnes plus âgées, les hommes plus âgés du quartier. Donc le commerce a joué, les marchés ont joué un très très grand rôle. Et parmi ces marchés, il faut bien sûr parler du fameux marché aux bœufs. Alors ce marché aux bœufs, il arrive à la placette en 1850. Je vous ai dit qu'il était déjà au niveau de là où se trouve le temple de l'oratoire. il y avait un abattoir au port, la rue des Écorchoirs, et puis il y avait devant un marché aux bœufs, déjà là où on va construire le temple de l'oratoire. Et quand en 1850 on décide de construire un nouveau temple, une nouvelle école, et surtout d'aménager un immense marché aux bœufs, à l'emplacement de Pablo Neruda maintenant. Ce marché aux bœufs, il faut le savoir, a été le plus grand marché de bestiaux de tout le sud de la France. De Perpignan à Nice, c'était le plus important. Autrement dit, les maquignons venaient vendre leurs bêtes et les bouchers ou les grossistes en boucherie de toute la région se retrouvaient chaque semaine. Le marché avait lieu chaque semaine, mercredi et jeudi, durait 2 jours. Les bêtes arrivaient le mercredi et en général les échanges se faisaient le jeudi. Alors des échanges à l'ancienne, hein, toc manette, on se tapait dans la main et c'était bon la vente. On n'avait pas besoin de signer des contrats et d'avoir des garanties et des assurances. Et ça mettait une animation incroyable dans le quartier parce que arrivaient donc tous ces maquignons, tous ces commerçants qui logeaient chez les habitants du quartier de la Placette. Beaucoup aménageaient une pièce et on faisait chambre d'hôte en quelque sorte, ou servaient des repas. Et tous les gamins du quartier touchaient une petite pièce en allant s'occuper du bétail. Quand le bétail arrivait, il avait soif, il fallait distribuer de l'eau, il fallait brosser les animaux. Alors quelquefois, et c'est des anecdotes amusantes, on disait aux petits, tu le fais bien boire, hein, le petit veau, pour qu'il pèse lourd sur la balance. Donc on les gonflait un peu d'eau, ces animaux, pour pouvoir en tirer un meilleur prix. Enfin bref, toute l'ambiance d'un marché de maquignons avec ces éleveurs qui avaient des blouses bleues, enfin c'était quelque chose d'extraordinaire. Et ce marché va durer de 1850 jusqu'à 1950, où là on décide, pour des raisons d'hygiène essentiellement, parce que c'était compliqué quand même ce marché dans la ville, de le transférer au marché à Saint-Césaire. Au marché-gare de Saint-Césaire. Et donc à ce moment-là se libère un immense espace sur lequel on va construire le centre Pablo Neruda, la piscine et les équipements sportifs qu'on connaît dans les années 60. Mais donc de 1850 à 1950, pendant un siècle, le marché se tiendra là. Et les abattoirs étaient de l'autre côté du Jean Jaurès, là où se trouve l'école, c'est pas Armand Barbès, je sais plus comment elle s'appelle. On voit encore le portail des abattoirs devant une école primaire, dont j'ai oublié le nom, qui se trouve dans la rue Henri Révoil, à peu près en face. Et là où se trouvait un quartier de gitans, d'ailleurs. Les gitans étaient le long du Cadereau, dans bien évidemment des habitats nomades. Et c'est à partir de ce moment-là que les gitans, dans les années 1950, vont massivement venir s'installer. On va les sédentariser et s'installer dans le quartier de la Placette. Mais je pense que Salem connaît plus de choses que moi sur les gitans et va pouvoir nous en parler.
Je reviens un petit peu en arrière là sur le marché. Mais alors, quelle était la place du marché Saint-Charles par rapport à ce marché? Est-ce qu'ils étaient complémentaires, en concurrence, c'était deux mondes différents?
Deux mondes complètement différents. Le marché Saint-Charles était un marché de fruits et légumes surtout.
D'accord.
Donc des cajots de fruits et des légumes qui alimentaient, c'était les halles. Les halles de Nîmes, telles qu'on les connaît aujourd'hui, moins la viande. Mais de toute façon, le marché dont je parle, de la Placette, était un marché de gros. Hein, on achetait des bêtes, les bouchers les achetaient sur pied, les abattaient eux-mêmes. À l'époque, on avait le droit, quand on était boucher, d'abattre. Ou bien c'était des grossistes qui les revendaient à des bouchers, qui les faisaient abattre dans des abattoirs et qui revendaient des quartiers de viande. On n'allait pas acheter son steak au bœuf de la Placette. Mais le marché Saint-Charles, c'était essentiellement des fruits et légumes.
Et la foire de la Saint-Michel, alors, c'était aussi sur les allées Jean Jaurès à l'origine?
Oui. Alors pas à l'origine. Hein. À toute l'origine, les premières foires animaux ont eu lieu sur l'esplanade. Et puis ensuite, on les avait mis sur les boulevards. Mais ça générait du bruit, ça générait des désagréments pour les habitants. Et petit à petit, on a pris l'habitude de les mettre sur les allées Jean Jaurès. Et elles s'installent définitivement sur les allées Jean Jaurès au début du XXe siècle. Pour une longue période, avant que fin du XXe siècle, on ne les déménage elles aussi.
Moi, j'ai eu la chance de parce que je suis très curieux de nature, de connaître quelques gitans, et notamment un des derniers grands gitans qui nous a quittés il y a peut-être 4 ou 5 ans, c'était Michou, Jean Mathieu, qui était, on va dire, le symbole de la communauté, et puis c'est lui qui faisait le lien entre tous les gitans. C'était une figure respectée. D'ailleurs, il était, sa fille tenait le bar, le rugby bar d'ailleurs. Et les gitans que j'ai connus, qui m'ont raconté leur histoire, pour la plupart, ils m'ont dit qu'ils sont arrivés à la placette au début du XXe siècle. Et c'était des gitans qui venaient de Catalogne. C'était des Catalans. Et en fait, c'était 4 ou 5 familles qui se sont installées et qui ont fait souche, qui se sont un petit peu sédentarisées. Alors, c'était des gens qui vivaient de la petite vente, c'est-à-dire des tissus, ils vendaient il y avait des maquignons, toutes sortes de tissus, de la mercerie, voyez, de l'ail, et puis ils se sont installés, donc ils sont restés, ils ont fait souche à la placette. Et maintenant, qu'est-ce qu'il en reste? Bah, il reste quelques familles qui se voient tous les jours au rugby bar, qui est le QG. Et d'ailleurs, dans le rugby bar, quand vous rentrez à droite, il y a la photo de Michou. Et de Michou, et il y a la photo de Manitas des Plata, de toutes les figures de quelques matadors dont j'ai oublié le nom. Et alors j'ai été pas surpris, en même temps touché par la façon dont ils rentraient dans ce rugby bar. Ils rentrent le matin comme s'ils étaient rentrés dans un lieu de culte. Et bien sûr, il y a toujours un regard et une main qui se pose sur le portrait de Michou, avec un bisou. Et une fois, alors je vous en racontais une aussi qui était, enfin une fois, la dernière fois que j'ai bu un café, la fille de Michou, qui savait quelle relation, quel lien on avait avec Michou, j'ai commandé un café et au moment de payer, elle m'a dit c'est papa qui paye, c'est lui, parce qu'elle savait et elle était vraiment. On sentait qu'elle était, elle avait de l'émotion. Ben, j'ai dit merci, bien sûr, je vais en reprendre. Et donc, il y a ce culte, il y a cette âme donc, de Michou qui est là. Et puis là, bon, il y a aussi. Les gens, ils viennent là pour se retrouver, pour se rassurer, parce que ça fait communauté. Mais ça reste une petite communauté, c'est pas une. Ouais. Et puis d'abord, bon, il se trouve que maintenant, il y a une petite inquiétude depuis la mort de Michou. C'est. On sent qu'il y a une place, il y a un vide qui s'est créé. Effectivement, je pense qu'il va y avoir la sociologie va un petit peu changer.
Voilà. Je compléterai bon, juste en disant qu'à la Feria de Nîmes, ben, la scène est réservée en fait aux gitans.
Bien sûr.
Hein, bon, pour plusieurs jours.
Tout à fait.
Et c'est toujours très très agréable. Hein.
Ouais. Et les boules, jouer aux boules, parce qu'il y avait de grands, grands joueurs de boules. Hein. Oui. Il y avait notamment le cheval. Qui était un très très grand joueur de boules. C'est très important.
Michou était surnommé le roi de la placette, oui. Ou l'empereur de la placette.
Ami, il avait même un autre surnom, il était Dieu, on l'appelait Dieu aussi.
Oui. Et le maire de Nîmes, alors qui c'était le maire de Nîmes?
Monsieur le maire aussi.
Monsieur Bousquet l'appelait Monsieur le maire, oui, quand il l'a rencontré. Jean Bousquet, effectivement.
Je vous propose une troisième pause musicale.
Blanc, 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 blanc. Provence, blanc, 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 le goéland, le bateau blanc qui danse, blanc, blanc, le soleil de plomb est dans tes yeux, mon rêve en bleu, bleu, bleu.
Quand j'ai besoin de vacances,
bleu, 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 bleu,
je m'embarque
bleu,
dans tes
bleu,
yeux,
bleu, 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 bleu,
bleu.
Bleu
comme un ciel immense, et nous partons tous les deux.
Bleu, bleu, le ciel de Provence. Blanc, 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 le goéland, le bateau blanc qui danse. Blanc, blanc, le soleil de plomb est dans tes yeux, mon rêve en bleu. Bleu, bleu.
Quand le vent claque la toile,
blanc, blanc, blanc. Blam blam blam, blam blam
de ton joli
blam,
jupon blam, blanc,
blam blam blam,
blanc,
blam blam blam, blam
blanc comme une
blam,
voile,
blam, blam, blam,
je navigue terre éperdument.
Bleu bleu le ciel de Provence, blanc 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 le goéland, le bateau blanc qui danse, blanc blanc le soleil de plomb est dans tes yeux.
tes cheveux d'un blond de rêve.
Blanc, 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 blanc.
Déferlent en flots légers.
Blanc, 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 blanc. Blanc, blanc, blanc,
blanc, sur une grève,
blanc, blanc, blanc,
je voudrais
blanc, blanc, blanc,
naufrager.
Blanc, blanc, bleu, bleu, le ciel de Provence. Blanc, 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 le goéland, le bateau blanc qui danse. Blanc, blanc, le soleil, le plomb, et dans tes yeux, mon rêve en bleu. Bleu, bleu,
blanc, blanc, bleu, blanc, blanc.
De retour dans le studio Jean Orsi de Radio Nîmes avec l'accent, toujours avec Francine Cabane et Salem Marchi. Et on va parler un petit peu du temple de l'oratoire.
Oui. Oui, parce que ce quartier a aussi un patrimoine architectural intéressant, à travers essentiellement un temple qui est le seul temple à Nîmes ayant été construit pour être un temple. Hein. Le grand temple était en fait l'église des Dominicains, le petit temple de la rue du Grand Couvent était la chapelle des Ursulines, donc deux bâtiments catholiques transformés en temple après la Révolution française, mais le temple de l'oratoire a été construit pour être un temple hein, dans les années 1850. Et ce temple avait été demandé, bien sûr, parce que, je vous l'ai dit, le quartier de la Placette était un quartier à forte population protestante et il n'avait pas de lieu de culte à proximité. Donc on va décider, la municipalité va décider, de quand on transfère justement les abattoirs et qu'on construit le grand marché aux bœufs, ça libère tout un espace où on va décider de construire un temple et qu'on va accoler à une école qui existait déjà. Quelquefois, les gens ne font pas bien la distinction entre l'école qui se trouve rue Bigot, qui était une école protestante où il y avait quand même 300 élèves inscrits, c'est dire le nombre. On est dans les années 1850, avant la Troisième République, avant l'école obligatoire. Mais chez les protestants, tout le monde savait lire et on allait à l'école. Et donc, contre cette école protestante, qui est de très belle architecture, on va demander à un premier architecte de construire le temple de l'oratoire, du nom du grand temple de l'oratoire à Paris. Hein. Et cette construction va être très compliquée, parce que elle va changer de plan. Ça se voulait être un temple octogonal, de forme octogonale, puisque normalement la parole est au centre, la chair est au centre, et donc les temples protestants sont de forme circulaire ou demi-circulaire ou octogonaux pour que tout le monde soit à la même distance de la parole de l'évangile. Mais l'espace qui était donné pour ce temple était compliqué pour gérer le plan tel qu'il avait été défini. Et puis tout de suite, dès l'ouverture, dès l'inauguration, une partie de la voûte va s'effondrer. Donc on le ferme. Donc en fait, la construction du temple va prendre plus de 20 ans et c'est un dénommé Alphonse Granon qui va reprendre les travaux. Or cet architecte, trop peu connu à Nîmes, a été un architecte avant-gardiste. On est dans les années 1870 et il dit « moi je vais faire une charpente métallique ». Comme en Angleterre. Charpente métallique. La tour Eiffel, ce sera bien des années après. Hein. C'est-à-dire construire des charpentes métalliques, personne ne savait faire. Et ça paraissait fou pour un temple. Et il va tenir bon, parce que vu la hauteur et vu le poids de la voûte qui s'était effondrée, la première, eh bien on va finir par lui faire confiance. Et il va construire cette charpente métallique qui est assez unique, parce qu'elle est très ancienne en France. Et si vous avez l'occasion de rentrer dans le temple de l'oratoire quand il y a du soleil, c'est absolument magnifique. C'est une espèce de dentelle hein, de fer qui donne des jeux de lumière tout à fait intéressants. Voilà, voilà l'histoire du temple qui sera officiellement inauguré en 1873, donc plus de 20 ans après les débuts des travaux qui ont été compliqués. Et puis, je voulais aussi parler des écoles, parce que l'école de l'oratoire, que tout le monde connaît, qui aujourd'hui s'appelle l'école de la Placette, cette école de l'oratoire qui était juste à côté du temple de l'oratoire, a été une école construite dans les années 1900, fin des années 1890, après les grandes lois républicaines qui instituaient l'école laïque, gratuite, obligatoire. Et on a voulu faire un monument à la République, dans ce quartier très républicain. Donc si vous la regardez, cette école, l'architecte, c'est Poitevin qui l'a construit avec Max Raphaël. Max Raphaël, c'est celui qui a fait le musée des Beaux-Arts, Et Poitevin, c'est celui qui a refait la façade, par exemple, de l'église Sainte-Eugénie, c'est lui qui a refait la façade de la synagogue, rue Roussy, et il a construit beaucoup d'écoles, l'école du Mont du Plan et l'école de l'Oratoire. Et cette école, elle est vraiment très très belle. La pierre est magnifique, si vous regardez bien l'architecture, les fenêtres sont très soignées, il y a des céramiques colorées qui soulignent le haut des fenêtres, il y avait des galeries en fer forgé absolument splendides, vraiment une superbe architecture, des grandes salles immenses, aérées, ensoleillées, où les enfants avaient toute la lumière voulue. On avait respecté les normes 1 mètre carré d'espace par enfant. Il fallait pas que la lumière gêne pour voir le tableau. Il fallait qu'il y ait des WC. Donc on est quand même à la fin du 19e siècle. Et il y a un confort et un luxe, je dirais même, dans cette école de l'Oratoire, qui aujourd'hui s'appelle l'école La Placette, qui est absolument fabuleux. Et donc, architecte prestigieux, et Paul Bert, qui était le ministre de l'Instruction publique, disait que les écoles devaient être les églises de la République laïque, hein, donc aussi belles que des églises et aussi prestigieuses. Et c'est le cas pour l'école de La Placette. C'est vraiment un beau bâtiment.
Et la rénovation a été aussi très réussie. Hein.
Et tout à fait, parce qu'on a failli la perdre en plus, cette école. Il avait été question, au début de la municipalité Bousquet, de raser l'école qui ne correspondait plus aux normes, et puis qui avait vieilli, qui n'avait pas peut-être été assez entretenue, et on avait décidé de la raser. Et les habitants du quartier se sont mobilisés, vraiment, il y a une âme citoyenne, républicaine, très très forte dans ce quartier. Et sous l'initiative de l'ancienne présidente Maryse Philibert, qui est une femme exceptionnelle, à qui j'aimerais rendre hommage, je ne sais pas si elle va m'entendre, peut-être elle écoute la radio. Mais
sûrement qu'elle écoute la radio.
C'est une femme exceptionnelle, et elle a mobilisé tout son quartier, et effectivement, on va décider de garder l'école de l'Oratoire, et de l'agrandir en lui adjoignant un bâtiment qui vient s'appuyer devant, mais sans détruire. Ce qui fait que les enfants à l'intérieur de l'école, on ne le voit plus depuis la rue, mais à l'intérieur de l'école, ils ont encore accès à ces galeries avec, disons, des poteaux de fonte travaillés, moulurés. Ils voient toutes les céramiques. Et chose assez originale, on a installé la cour de l'école tout à fait sur la terrasse en haut, où on a une vue magnifique sur la ville. Donc ces gamins grandissent en regardant la Tourmagne et en voyant sous leurs yeux tous les toits de la ville. Donc c'est superbe comme idée, et je trouve que l'agrandissement de l'école de La Placette a été une réussite. C'était l'architecte Jérôme Brunet et Éric Saunier qui l'ont fait, avec comme principe, ils voulaient améliorer sans faire table rase du passé. Il voulait respecter les volumes, valoriser la place de l'oratoire, affirmer la culture méditerranéenne en jouant sur l'ombre et le soleil, s'intégrer complètement dans le quartier. Ils ont créé une rue piétonne aussi entre le temple et l'école qui permet de dégager un espace très agréable, et puis garder la mémoire, les coursives, la structure en fonte, tout ça a été gardé. Donc c'était un très très beau projet architectural auquel je voulais rendre hommage. Voilà.
À propos de la Tourmagne, il y a un endroit, on voit très bien, ça Francine ne peut pas le savoir, c'est à partir de la rue Ernest Renan. Et c'est une rue qui est en direction de la Tourmagne. Effectivement, de la rue Ernest Renan, c'est-à-dire à côté de la Placette, on voit la Tourmagne aussi.
Oui, tout à fait.
Alors, quelques autres lieux, hein, donc emblématiques. Alors il y a le autre... petit théâtre, non, on parle un petit... Non,
alors,
bon, les écoles d'abord. Les écoles.
C'est la vie du... Non, mais c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur les écoles. Mais comme autre lieu emblématique qui n'est pas pour le moment classé monument historique, parce que les deux dont je viens de vous parler sont inscrits au monument historique et protégés, que ce soit l'école de la Placette ou bien sûr le temple de l'Oratoire, c'est la maison d'Olivier Julian. Olivier Julian est un habitant du quartier de la Placette qui se trouve dans la rue de l'Hôtel Dieu, à l'entrée de la Placette quand on arrive du côté du Jean Jaurès. Et c'est un monsieur absolument extraordinaire et charmant, et surtout très engagé, qui a des idées auxquelles il tient. C'est un grand humaniste, c'est un grand intellectuel, il connaît énormément de choses. Et il a eu l'idée d'agrémenter sa maison en la décorant un peu à la manière de Gaudi. Et puis, enfin, il est au croisement de ce qu'on appelle le ready-made, hein, c'est-à-dire l'utilisation d'objets du quotidien pour en faire des objets d'art, de ce qu'on appelle l'arte povera, c'est-à-dire l'art pauvre. Mmh. Il utilise la vaisselle cassée qu'il met dans ses murs, hein, qu'il incruste des faïences que les habitants du quartier lui donnent. Il y a une petite niche dans un coin de la maison où les gens viennent poser dans un panier de la vaisselle cassée qu'il va utiliser.
Tout à fait, oui,
et puis il est aussi sur du street art parce qu'il offre son art gratuitement à tout passant. Et vraiment cette maison qu'on a vue évoluer au fil des années, il commence en 1975. Alors comme c'est un fou de vélo, passionné de vélo, il a commencé avec des roues de bicyclette. Et sur la façade du côté de l'Hôtel Dieu, on a des bicyclettes qui tournent, des roues de bicyclette qui tournent avec le vent.
Au-dessus d'un petit commerce.
Effectivement. Et il a, là, mis aussi des jolies poteries. On est là sur du décor coloré et référence à l'écologie, au vent et au sport, hein, un peu. Et puis, il a tourné et commencé à travailler sur les façades parce que tout le bloc lui appartient avec ses frères ou sœurs.
C'est en indivision.
La famille a acheté. Et il va commencer à décorer les autres façades. Et là, il se dit qu'il faut qu'il transmette un message. Donc, ça devient quelque chose de beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus esthétiquement parlant, c'est toujours aussi beau, mais avec des phrases fortes qui sont dans les murs. D'abord, une référence à l'histoire. Il dit qu'on ne comprend rien au présent si on ne connaît pas le passé. Donc, importance du passé, c'est écrit. Mais aussi avec des citations de Rousseau, des citations de Zola, qu'importaient les victimes pourvu que la machine passe, que la machine écrasée en chemin, pardon, de Zola dans La Bête humaine. Dormez moins et rêvez plus. Il a écrit aussi des phrases comme « Imaginez, c'est hausser le réel ». Et surtout, ce qui est sa devise, c'est-à-dire « Docere, delectare, mover », instruire, plaire, émouvoir, les trois fonctions du discours selon Cicéron. Donc on voit qu'on monte d'un niveau. Il y a énormément de messages écologistes aussi, des références à Pachamama, la terre-mère, la déesse-terre, de l'esprit de 45 aussi, des références à Ken Loach, enfin. Donc un engagement politique dans cette maison qui est en même temps une œuvre d'art. Aujourd'hui, je crois que plus personne ne le conteste. Mmh. Et pour moi, elle incarne toute l'âme de la placette. Parce que cette maison, elle est belle, elle est colorée, elle est multiforme, elle est vivante, elle est au croisement de plein de choses, de civilisations, et avec un discours très humaniste. Et pour moi, c'est ça la
placette. Il y a des faïences qui sont écrites en arabe également.
Oui,
que j'ai vu.
Tout à fait.
En fait, il habite le Vigan, lui.
Oui, mais il est souvent là quand même. Oui, mais il a une maison en Cévennes à laquelle il tient beaucoup. Oui. Et voilà, donc cette maison, on pense, on espère bien qu'un jour elle soit classée monument historique et qu'elle soit protégée surtout, qu'on ne puisse pas la détruire parce qu'il y a une très belle émission de télévision qui a été faite sur cette maison qu'on peut voir en podcast sur Internet, je ne sais plus sur quelle chaîne.
Il a fallu qu'il convainque les gens parce que c'est au début, ça paraissait très très bizarre, très curieux.
Oui, oui.
Et au fur et à mesure que les travaux augmentaient, moi je l'ai rencontré, on le voit avec un petit balai là sur le trottoir en train de nettoyer là après son travail. Mais au début, c'était pas gagné cette affaire-là. Ça faisait un peu baba cool, quoi.
Les gens du quartier se moquaient un peu de lui d'ailleurs.
Voilà. Mais je vois que maintenant, c'est.
Ah, ils en sont très fiers maintenant.
Ah, c'est terminé ça.
Les gens du quartier.
D'ailleurs, on l'appelle Gaudi.
Et sur l'expression artistique aussi, en fait, du quartier, il y a eu cette aventure, la collective, sur l'ancien dispensaire, là, ça a existé pendant 18 mois. Et puis maintenant, il n'existe plus parce que le bâtiment était entièrement détruit.
Oui. Alors, c'était des bâtiments qui appartenaient à la sécurité sociale, là, et qui, effectivement, pendant 3 ans, ont été, maintenus avant d'être détruits. C'était prévu, ça, dès le départ, hein, pour en faire un tiers-lieu qui s'appelait le vaisseau, je crois.
Le vaisseau, 2008,
quand ça a été créé. Et ce tiers-lieu accueillait des artistes, accueillait des graffeurs, accueillait des musiciens. Et il s'y est passé beaucoup d'événements culturels tout à fait intéressants. Et c'était complètement dans l'esprit du quartier et très adapté.
Bien, on va terminer les pauses musicales avec Le Galop de Camargue en entier cette fois-ci. De retour dans le studio Jarcy de Radio Nîmes pour en terminer avec cette émission sur la placette. Alors avant de laisser les derniers mots à Francine Cabane et à Salem Marchi, je me permets de remercier tous les auditeurs et je me permets également de remercier Francine Cabane. C'est toujours un immense plaisir de la recevoir pour son érudition, mais surtout sa façon si plaisante en fait de nous raconter l'histoire de Nîmes. Francine Cabane.
Oui, je voudrais juste pour terminer rendre un hommage à quelques personnes qui pour moi incarnent la placette et que j'apprécie particulièrement. Au président du comité de quartier de la Placette, Bernard Simon, qui est académicien aussi et qui vraiment porte ce quartier au fond de son cœur et qui organise pour le quartier plein de manifestations avec toujours l'esprit de convivialité, de fraternité qui sont chers au quartier. Une pensée aussi, je l'ai dit, pour Maryse Philibert, qui a été longtemps la présidente du comité de quartier et qui est une femme absolument remarquable, lumineuse. Pour aussi mon amie Monique qui nous accueille toujours dans sa petite maison ouvrière. On n'a pas trop eu le temps de parler de ces jolies maisons ouvrières du comité de quartier et qui ouvre largement ses portes et ses bras à tous les gens qui viennent visiter. Parfois j'ai la chance d'amener chez elle des personnes qui viennent du chemin bas d'Avignon ou de la ZUP et ces moments de rencontre sont très très précieux. Voilà, puis bien sûr une pensée pour Olivier Julien et sa très belle maison et merci à tous.
Il reste à remercier notre amie Francine Cabane qui nous enrichit toujours quand elle passe avec cette générosité naturelle, cette pédagogie qu'elle a, qui est absolument, c'est toujours un plaisir. Alors moi, j'aimerais donner un conseil pour Jean Gros, connaître les contes de la Placette et du Courneuf, qui sont véritables textes poétiques et très très intéressants.